Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la Sainte Sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce mercredi 3 avril 2024. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Le Conseil de sécurité nationale iranien réagit aux récents crimes du régime sioniste à Damas. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, attaque israélienne à Damas, entretien téléphonique Amir Abdollahian Guterres, la section consulaire de l'ambassade d'Iran a été attaquée, le Conseil de sécurité se réunit en urgence. La Banque mondiale évalue les dégâts causés par la guerre d'Israël à Gaza et puis l'Espagne reconnaîtra l'État palestinien. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur l'attaque terroriste israélienne contre la section consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas. Ce mardi 3 avril, au siège de l'ONU à New York, la mission iranienne a appelé l'Organisation mondiale à dénoncer catégoriquement la violation par Israël du droit international. Zahra Ershadi, représentante permanente adjointe de l'Iran auprès des Nations Unies, a déclaré qu'Israël cherchait à accroître les tensions dans la région tout en évitant l'entière responsabilité de ses actes. Elle a déclaré que le régime défie les résolutions du Conseil de sécurité et fait fi de ses obligations internationales. Le crime d'Hollande viole de manière flagrante le principe fondamental de l'immunité diplomatique et consulaire ainsi que la Convention de 1961 sur les relations diplomatiques, la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires et la Convention de 1973 sur la prévention et la répression des crimes, a-t-elle rappelé. Dénonçant la violation flagrante de la souveraineté syrienne, Vassili Nebenzia, l'ambassadeur de Russie auprès de l'ONU, a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité que la Russie estimait que de telles actions agressives de la part d'Israël visent à alimenter davantage le conflit. Elles sont absolument inacceptables et doivent cesser, a-t-il dit. L'ambassadeur chinois a également condamné l'attaque israélienne, la considérant comme une grave violation de la Charte des Nations Unies, du droit international et de la souveraineté de la Syrie et de l'Iran. La session du Conseil de sécurité s'est tenue mardi après-midi à la demande de la Russie suite à la frappe terroriste israélienne. Hossein Amir Abdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères, a appelé mardi le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des mesures appropriées et explicites pour condamner l'attaque meurtrière israélienne contre la section consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas. Lors d'un entretien téléphonique mardi 2 avril avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des mesures adéquates et explicites pour condamner l'attaque meurtrière israélienne contre la section consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas. Dans un message publié mardi sur X, Amir Abdollahian a déclaré avoir rappelé à Antonio Guterres que les Nations Unies et leur Conseil de sécurité ont le devoir d'assurer la paix et la sécurité internationale. J'ai exigé une réaction appropriée et explicite du Conseil de sécurité de l'ONU en condamnant l'attaque terroriste du régime israélien contre la section consulaire de l'ambassade de notre pays à Damas et l'assassinat de conseillers militaires officiels iraniens et de citoyens syriens, a-t-il déclaré. S'agissant toujours de l'attaque terroriste contre l'ambassade iranienne, entretien téléphonique entre les présidents Raisi et Assad, l'attaque terroriste contre l'ambassade iranienne montre le profond désespoir d'Israël lors d'une conversation téléphonique mardi avec son homologue syrien Bachar Assad. Le président iranien Ibrahim Raisi a affirmé que l'attaque terroriste contre la section consulaire de l'ambassade iranienne en Syrie est le signe du profond désespoir et de l'impuissance d'Israël. l'inertie et la faible position de certains pays arabes ont empêché le monde islamique d'adopter une position unie contre Israël et ont rendu le régime israélien plus cynique dans ses crimes, a-t-il estimé. Le président iranien a décrit les actions insensées d'Israël comme le dernier combat d'un régime en agonie qui ne respecte aucun principe humanitaire et international. Le monde entier sait que le régime criminel sioniste ne s'engage à aucun des principes humanitaires et internationaux, a-t-il dénoncé. Ebrahim Raisi a également fustigé les États-Unis et leurs alliés occidentaux qui ont fourni un soutien financier, militaire et médiatique à Israël. Le président syrien Bachar Assad a pour sa part condamné l'attaque israélienne contre la section consulaire de l'ambassade iranienne en Syrie. Cette attaque est une violation des lois internationales et un signe du déclin moral du régime sioniste, a-t-il soutenu. Il a présenté ses condoléances à la nation et au gouvernement iranien, ainsi qu'aux familles des martyrs de l'attaque à Damas. La Banque mondiale évalue les dommages causés par la guerre d'Israël à Gaza. Les dégâts aux infrastructures critiques dans la bande de Gaza durant les 4 premiers mois de la guerre d'Israël sont estimés à environ 18,5 milliards de dollars, selon un nouveau rapport de la Banque mondiale et des Nations unies. Le rapport publié mardi indique que les dégâts structurels causés par les bombardements israéliens contre la bande de Gaza ont affecté tous les secteurs de l'économie du territoire palestinien sous blocus. Il équivalait à 97% du PIB combiné de la Cisjordanie occupée et de la bande de Gaza en 2022. Enfin, l'Espagne reconnaîtra l'État palestinien d'ici juillet. Le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a déclaré que son pays reconnaîtrait l'État palestinien d'ici juillet, selon des informations quelques jours après avoir rendu public son projet sur les réseaux sociaux. Nous devons réfléchir sérieusement à la possibilité de le faire au premier sommet de cette année, a déclaré Sanchez selon la presse espagnole. Le premier ministre espagnol a fait ses remarques dans la capitale jordanienne Amman au premier jour de sa tournée régionale qui l'amène en Jordanie, au Qatar et en Arabie saoudite. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. Le Conseil de sécurité national iranien réagit aux récents crimes du régime sioniste à Damas. Les développements politiques et sécuritaires dans les jours et semaines à venir apporteront un éclairage supplémentaire sur les décisions prises par la plus haute instance de sécurité du pays et sur la manière dont les États-Unis répondent aux récents crimes du régime sioniste, agissant comme armée par procuration de Washington dans la région. Le 1er avril, le régime sioniste a commis un nouveau crime, une violation flagrante des protocoles internationaux et de l'inviolabilité des locaux diplomatiques en visant le consulat de la République islamique d'Iran à Damas, la capitale syrienne, entraînant le martyre de 7 conseillers militaires iraniens, dont le général de brigade Mohammad Reza Zahedi et son adjoint Mohammad Hadi Hodj Rahimi, commandant de haut rang du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI. Même si les raisons derrière la préparation de ce crime par le régime sioniste peuvent être compréhensibles, compte tenu de l'impasse sans précédent dans laquelle le régime est confronté au niveau national et international depuis le 7 octobre et l'opération Al-Aqsa, on ne peut ignorer l'impact que cet événement pourrait avoir sur la confrontation de l'Iran avec l'audace impardonnable de ce régime. Bien que jusqu'à présent, les autorités iraniennes, y compris le président iranien et le chef du Conseil de sécurité nationale, se soient contentées de souligner qu'elles ne laisseraient pas sans réponse le récent crime du régime sioniste, l'annonce de la tenue d'une réunion d'urgence de ce Conseil hier soir et l'adoption des décisions pertinentes concernant l'attaque contre le consulat iranien à Damas montrent que la réponse de Téhéran à cet événement a été rapide et basée sur un consensus au plus haut niveau de prise de décision sur les questions de sécurité nationale. Le communiqué du Conseil souligne que la réunion s'est tenue à 21h lundi soir, 4 heures seulement après l'attaque du régime sioniste contre la section consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas, indiquant que la prise de décision sur la manière de répondre à cet événement figure parmi les principales priorités de la sécurité nationale. Peu de temps après la réunion du Conseil de sécurité nationale, l'Iran a soumis une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU concernant l'attaque du régime israélien contre les intérêts iraniens à Damas, remise par l'ambassadeur et représentant permanent adjoint de l'Iran auprès de l'ONU. Dans cette lettre, l'Iran souligne que le régime occupant d'Israël a mené une attaque terroriste odieuse et détestable contre les locaux diplomatiques de la République islamique d'Iran en Syrie. L'Iran a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre les mesures nécessaires, y compris la tenue immédiate d'une session pour remédier à cette violation flagrante et prévenir de futures actions agressives qui mettent en péril la sécurité et la sûreté des missions diplomatiques et pour garantir que les responsables de tels actes criminels répondent rapidement de leurs actes. La lettre souligne que le régime sioniste porte l'entière responsabilité des conséquences de tels crimes terroristes et que l'Iran se réserve le droit légitime, en vertu du droit international et de la Charte des Nations Unies, de répondre de manière décisive à de tels actes terroristes. Suite à l'action rapide de la République islamique d'Iran, en faisant référence à l'attaque du régime sioniste contre la section consulaire de l'ambassade à Damas, le premier envoyé adjoint de la Russie auprès de l'ONU a annoncé qu'une session d'urgence du Conseil de sécurité sur l'attaque israélienne contre le consulat iranien en Syrie aurait lieu sous peu. La décision de suivi prise par le Conseil de sécurité nationale d'Iran se sont poursuivies du jour au lendemain et jusqu'à ce mardi matin, comme l'a annoncé Hossein Amir Abdollahian, ministre des Affaires étrangères, sur sa page personnelle du réseau social X. Le chargé d'affaires suisse, en l'absence de l'ambassadeur, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères ce matin et un message important a été envoyé aux États-Unis en tant que partisans du régime sioniste. Les États-Unis doivent être tenus responsables. L'action significative du ministère iranien des Affaires étrangères en envoyant un message important aux États-Unis démontre que même si la Maison-Blanche semble ignorer la décision du régime sioniste de commettre ce crime, du point de vue de la République islamique d'Iran, le rôle de Washington en tant que principal soutien du régime sioniste dans la perpétration du récent crime est certain et que les États-Unis doivent se préparer aux répercussions de cette action. Il est certain que les développements politiques et sécuritaires dans les jours et les semaines à venir clarifieront les dimensions des décisions prises par la plus haute instance de sécurité de la République islamique d'Iran, ainsi que la clarté de la réponse des États-Unis aux récents crimes du régime sioniste, qui agit comme une armée par procuration de Washington dans la région, deviendra plus évidente.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat. Alors, on va s'intéresser tout de suite aux manifestations mondiales, dont notamment en Europe, en solidarité avec les Palestiniens, de plus en plus fortes, avec nos deux experts. Avant de les saluer, je vous propose un reportage sur ce sujet, ces manifestations en solidarité avec la Palestine. On se retrouve tout de suite après. Restez avec nous.
Comme à l'accoutumée, depuis le début de la guerre israélienne, contre la population civile dans la bande de Gaza, des manifestations de masse se sont déroulées ce samedi 30 mars dans plusieurs pays européens, coïncidant cette semaine avec la Journée de la Terre. Les manifestations connues un élan sans précédent et une vaste portée à travers l'Europe, s'étendant à de nombreuses villes dont Londres, Paris, Amsterdam, Copenhague, Aarhus, Oslo. Dans le contexte du génocide en cours à Gaza, depuis près de 6 mois, cette journée du 30 mars 2024 prend une importance particulière. Le 30 mars est chaque année une journée particulière en Palestine et pour tous les Palestiniens qui vivent dans les territoires occupés de la Palestine, dans les camps de réfugiés des pays arabes ou dans la diaspora dans le monde entier. C'est la journée de la Terre commémorée depuis 1976. Le début des événements remonte à l'annonce par le cabinet d'occupation israélien dirigé par Yitzhak Rabin en 1975 d'un plan de judaïsation de la région d'Al-Jalil. L'objectif était de construire des colonies de peuplement sur des terres appartenant aux Palestiniens qui représentent la majorité dans cette région. Le 30 mars 1976, la police israélienne tire sur des Palestiniens qui manifestaient contre la confiscation de leurs terres. Bilan 6 morts, des dizaines de blessés et des centaines de détenus. Le 30 mars est donc devenu pour tous les Palestiniens dans le monde la journée de la terre qui est le symbole de leur attachement à leur terre, de leur résistance et de leur lutte contre l'occupation et la colonisation. Cette année, la journée de la terre prend un caractère particulier avec le génocide en cours dans la bande de Gaza qui dure depuis 6 mois. En toute impunité, le régime israélien s'affranchit du respect du droit international. Il refuse d'appliquer l'ordonnance de la Cour internationale de justice CIJ appelant à l'arrêt des actes génocidaires. Au contraire, il intensifie sa guerre atroce contre la population de Gaza. Il tue ou mutile des milliers d'hommes, des femmes, d'enfants et de bébés. Il détruit les habitations, hôpitaux, écoles, universités, biens culturels. Aux bombardements intensifs et déplacements forcés, le régime de Tel Aviv a ajouté l'utilisation délibérée de la famine. Gaza est sous blocus, c'était déjà une prison à ciel ouvert. C'est maintenant devenu un cimetière à ciel ouvert. Régissant massacre continu, le ministère iranien des Affaires étrangères a souligné par la voix de son porte-parole dans un message qu'il relevait de la responsabilité des institutions internationales de mettre une fin immédiate à la poursuite des crimes du régime sioniste et la poursuite légale et judiciaire des criminels sionistes comme le demande l'opinion publique mondiale. L'opinion publique mondiale exige la fin immédiate des crimes du régime sioniste, a insisté le diplomate iranien avant de souligner que les crimes barbares du régime sioniste contre les habitants de la bande de Gaza assiégée sont une tâche éternelle et indélébile sur le front de ses soutiens et alliés hypocrites.
Voilà pour le reportage. J'ai immense plaisir de recevoir deux chers invités pour ce débat d'aujourd'hui. Il s'agit de Maître André Chami et Maître Elie Hatem qui nous rejoignent depuis Paris. Bonjour à vous deux, ravi de vous retrouver. Vous êtes juriste international, analyste politique. Alors, on commence tout de suite. On commence tout de suite par vous, Maître André Chami. Comme à l'accoutumée, depuis le début de la guerre israélienne contre la population civile dans la bande de Gaza, des manifestations de masse se sont déroulées ce week-end dans plusieurs pays européens, coïncidant cette semaine avec la Journée de la Terre, qui est très symbolique. Il paraît que les revendications sont devenues de plus en plus fortes et de plus en plus claires, Maître Chami.
Les revendications, évidemment, ne peuvent que augmenter, on va dire, en puissance et en tout cas en intensité, parce que c'est à la mesure de l'agression et de la violence pratiquée par l'entité sioniste sur une population civile exsangue, puisque cette population est coincée dans une parcelle de terrain. Là, on est réduit à la portion symbolique, et puis bombarde au quotidien. Il n'y a rien qui est épargné, les hôpitaux, les camps des réfugiés. Hier, c'était les journalistes à nouveau qui ont été bombardés. Rien n'est épargné. C'est-à-dire, il n'y a plus d'humanité. On a fait une parenthèse de l'humanité, et cette parenthèse dure depuis 6 mois, et pendant 6 mois, les bombardements ne laissent rien passer, pas un enfant, pas une femme, pas un vieillard, pas un malade à l'hôpital, tout le monde y passe. Et évidemment, l'information passe, et l'opinion publique à travers le monde voit ce qui se passe en territoire de Gaza. Voit ce qui se passe même en territoire occupé, c'est-à-dire quand on regarde, y compris ce qui se passe à Jénine et dans les autres, en Cisjordanie, c'est pareil. Et c'est la raison pour laquelle nous constatons la reprise des opérations individuelles de la part des résistants palestiniens en attaquant des soldats israéliens sur des barrages. Hier, c'était un officier qui a été poignardé parce que ces gens et ces jeunes n'en peuvent plus. Ils veulent leur liberté, ils veulent retrouver leur dignité, ils veulent tout simplement retrouver leur humanité qui se trouve foulée du pied, et bien entendu, personne ne se réveille. Le monde occidental, sur le plan politique, j'ai eu l'occasion de le dire, la population est, je dirais, sensibilisée par rapport à cette question-là, mais les politiques en Europe, en Occident, se comportent de manière abjecte. Leurs déclarations sont en dessous de tout, leurs actions sont ridicules parce que aucune décision radicale qui permet de faire comprendre à l'antisioniste que maintenant ça commence à bien faire, il faut que ce massacre s'arrête, il faut que ces destructions s'arrêtent, il faut que ces exactions sur des personnes dans les hôpitaux, des lieux préservés par le droit international, il faut que tout cela cesse. Mais personne n'est à la hauteur de l'événement, personne n'est à la hauteur de ce qui se produit, de cette, je dirais, de cette ignominie commise par les Israéliens à l'encontre de la population palestinienne. Aujourd'hui, la population civile finira ici en Occident par l'emporter, mais entre-temps, malheureusement, le temps passe pour les Palestiniens. Il faut à un moment donné qu'il y ait une vague beaucoup plus forte pour inciter les Européens à bloquer tout, bloquer les aides, bloquer l'armement, bloquer le commerce, bloquer toute coopération de quelque nature que ce soit, à quelque niveau que ce soit, avec cette entité d'assassins. Et à un moment donné, peut-être que ça réveillerait les consciences et peut-être que ça ferait plier ces personnages qui règnent actuellement sur l'antisionisme. Moi, contrairement à d'autres, je ne fais pas la distinction entre la gauche, la droite, l'extrême droite, etc. Pour moi, je mets tout le monde dans le même sac parce que c'est une politique qui est mise en place depuis des décennies. Quand on parle de la journée de la terre palestinienne qui remonte à 76, je précise au passage que depuis 76, mais depuis 48, il y a eu des gouvernements et des personnalités de gauche comme de droite qui se sont succédés. Il y a eu le parti des travaillistes, il y a eu tous les partis politiques qui se sont succédés. Je n'ai pas vu le moindre changement dans la politique. Ça a toujours été la politique des massacres, la politique de l'exécution, la politique des sanctions collectives. Et évidemment, maintenant, il faut qu'à un moment donné, que le monde se réveille, que l'opinion publique internationale se réveille. Et malheureusement, ça ne vient pas du Moyen-Orient, ça vient de l'Afrique, qui est devenu le cœur du monde, qui est devenu le cœur qui bat dans le sens cœur-organe, parce que c'est ce cœur-là aujourd'hui qui fait battre l'idée de la liberté et qui fait battre l'idée qu'il est temps que cette libération soit assurée pour la population palestinienne et que ces massacres cessent. Et nous verrons, à travers les actions menées par les Africains, mais par d'autres pays, comment ça va se terminer. Mais à un moment donné, il faut que ça cesse parce que nous ne pouvons plus aujourd'hui d'abord nous regarder en face et en même temps regarder cette population en face pour voir à quel point elle souffre, à quel moment, à quel point elle est dans une situation désastreuse et insupportable.
Merci beaucoup, André Chami, pour cette ouverture. Cher Elia Atem, heureuse de vous avoir une fois de plus parmi nous. Alors, manifestations pro-palestiniennes, je disais, sont de plus en plus fortes et exigeantes, qui dérangent des gouvernements alliés d'Israël et qui préoccupent les autorités, leurs autorités respectives, les capitales européennes, Paris et Londres notamment, sont confrontées à une vague de manifestations pro-Palestine. Est-ce qu'il y a une évolution, d'après vous, au sein de ces manifestations, revendications des manifestants, au rythme des évolutions dans la bande de Gaza?
Écoutez, votre question est très intéressante parce que vous dites qu'il y a des manifestations populaires qui sont contradictoires, en quelque sorte, et qui ne reflètent pas la position de ces gouvernements occidentaux. Alors, il faut commencer par l'attitude et expliquer l'attitude de ces gouvernements occidentaux pour expliquer ce fossé et le pourquoi de ce fossé qui existe entre ce qu'on appelle les pays légaux et le pays réel dans ces pays occidentaux. Il faut savoir que pour accéder au pouvoir dans ces démocraties occidentales, ils ont besoin de l'appui, en anglais mainstream, des lobbies importants qui sont derrière ces médias et puis ces moyens de ce que j'appelle des moyens de pression, ces groupes de pression qui permettent aux dirigeants de l'exécutif d'arriver au pouvoir. Et tout cela est tenu malheureusement par des lobbies pro-israéliens et des lobbies sionistes qui entretiennent une certaine mainmise sur ces moyens et auxquels, en fait, sont subjuguées toutes les personnalités politiques pour arriver au pouvoir et pour rester au pouvoir. C'est ce qui explique cette attitude, je dirais, officielle de ces gouvernements occidentaux qui ne font que subir ce terrorisme intellectuel exercé par les lobbies sionistes et les lobbies pro-israéliens en Occident. Cela pouvait se passer de cette manière pendant plusieurs années, mais nous assistons aujourd'hui à une révolution technologique et l'émergence de médias parallèles qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont par Internet et sur la toile, et qui permettent en fait à la masse de comprendre une certaine réalité qui n'est pas dévoilée par les médias traditionnels. C'est ce qui explique ce réveil populaire en assistant, en voyant, en examinant de près la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, ce sont les images qui démontrent qu'il y a un génocide, qu'il y a de véritables massacres, comme mon confrère André Chami l'a expliqué, qui se passe en Palestine, qui est une terre occupée par des Israéliens. Et là, je ne suis pas le seul à le dire, ou mon confrère André Chami à le dire, mais il y a quand même des décisions internationales de l'organe qui est censé protéger le droit international public et qui est en fait les Nations Unies. Il y a plus de 65 résolutions de Conseil de sécurité des Nations Unies qui condamnent le comportement de l'entité sioniste. Il y a 1142 résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont l'une du 30 décembre 2022, qui explique et qui condamne la façon dont cette entité se comporte avec les autochtones palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza, mais aussi dans les autres territoires, à savoir en Cisjordanie. Et cela est reflété dans cette résolution 472 du 30 décembre 2022, qui n'a jamais été relatée par les médias traditionnels en Occident. Puis est arrivée toute cette opération qui a débuté le 8 octobre, à l'issue d'une opération dont les conditions ne sont pas encore très claires et qui a permis d'avoir un casus belli aux forces militaires israéliennes qui ne sont que la continuité des groupes terroristes sionistes, la Haganah, le Léry, et puis les autres groupes tels que le groupe Stern, qui sont quand même, qui ont exercé des méthodes terroristes à l'encontre de tout d'abord des Britanniques, mais ensuite contre la population palestinienne. Et je passe toutes ces exactions et puis cette façon de se comporter, les massacres progressifs, etc. Toutes ces informations qui ont été cachées à l'opinion publique occidentale et qui le sont toujours par les médias traditionnels ne peuvent plus l'être grâce à ces réseaux sociaux qui démontrent la réalité, qui montrent la façon dont les Palestiniens sont exécutés de sang-froid. Je parle en particulier non pas des résistants, c'est-à-dire des forces de résistance armées palestiniennes qui sont totalement légitimes conformément au droit international public, mais je parle des civils qui ne font pas partie des réseaux et des groupes de résistance palestinienne, mais qui subissent une véritable extermination de la part des forces militaires israéliennes. Et il faut rappeler que quand même, que la Cour internationale de justice s'est fondée sur les dispositions de l'article 2 du traité de prévention et de sanction du génocide pour se poser des questions et avoir suffisamment d'éléments pour avoir une suspicion sur le génocide de la population palestinienne. Et nous le voyons, il y a une déportation qui se fait et qui continue à se faire, parce que cette déportation a commencé bien avant 1948, la déclaration du pseudo-État israélien qui a été reconnu sous la menace et la pression psychologique sur les pays occidentaux. Et puis après 1948, à plusieurs reprises, il y a eu de déportations de populations palestiniennes. Le projet sioniste, comme l'a très bien démontré mon confrère André Chamy, il ne s'agit pas d'une droite ou d'une gauche, parce que c'est blanc bonnet ou bonnet blanc. C'est que cette entité même est fondée sur une notion racialiste, parce qu'il faut rappeler que le sionisme est considéré comme une forme de racisme. Il l'a été officiellement par l'Assemblée générale des Nations Unies, et quelque temps avant l'arrivée de Boutros-Boutros-Ghali comme secrétaire général des Nations Unies, et sous la pression des lobbies pro-sionistes, cette résolution a été annulée par l'Assemblée générale des Nations Unies.
Merci.
Cette entité, cette idéologie racialiste et sioniste est de nature à créer une haine de la part des non-juifs de plus en plus. Nous voyons ces déclarations de Ben Gvir, de Smotrich et des autres dirigeants actuels, mais des autres dirigeants, que ce soit de droite comme de gauche, et qui sont fondés sur cette notion d'une entité, d'une ethnocratie israélienne versus un État palestinien multiconfessionnel. Et j'insiste là-dessus, parce qu'il y avait des Juifs avant le 19e siècle, avant l'arrivée des premiers Bilohim et leur installation en Israël, et qui faisaient partie d'un tissu social composé de chrétiens, de musulmans, de juifs et d'autres communautés telles que les Samaritains, qui coexistaient harmonieusement en Palestine. Et il a suffi d'attendre ce mouvement des Amants de Sion, puis qui s'est transformé et en devenu l'OS du sionisme mondial, qui a donné naissance à cette ethnocratie racialiste dont le caractère s'est compliqué depuis le changement de la Constitution et depuis l'adoption par la Cour suprême israélienne de principes génétiques qui permettent de prouver la judaïté des citoyens israéliens.
Merci Eliatem. Peut-être dernière question à vous.
Maître André Chami, dans le cortège et sous une marée de drapeaux palestiniens, certains ont chanté le slogan « Free, free Palestine »,« Libérez la Palestine » et ont dénoncé les plus de 30 000 morts martyrs causés par les frappes israéliennes. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Et encore une fois, ici, les autorités occidentales ne mettent pas en avance la liberté d'expression, pour rappel.
Non, mais c'était le contraire, hein, parce qu'au départ, en France, je le précise au passage, que beaucoup de préfets ont refusé de donner des autorisations de manifester à beaucoup de manifestations. Ici, même en Alsace, j'ai dû intervenir auprès du tribunal administratif pour débloquer la situation, parce que le juge en France peut, pour des raisons que l'on peut exposer, et notamment le droit d'expression, le droit de manifester, aussi bien sur, en se fondant sur les textes de la Constitution que sur les textes de la Convention européenne des droits de l'homme, débloquer la situation et autoriser, malgré la décision du préfet, les manifestations dans l'urgence. Mais il s'agissait d'une décision politique. Le préfet n'agit pas de son propre chef. C'était le ministre de l'Intérieur, c'était les décideurs en haut lieu. Mais ben, comme ils ont vu que toute l'Europe finalement manifestait, ils ont fini par baisser le ton et ils ont commencé à autoriser les manifestations. Mais à partir du moment où vous créez déjà le sentiment de peur au départ, ben, ça pose des difficultés parce que les gens n'ont pas envie d'être confrontés aux forces de l'ordre quand ils descendent pour manifester et surtout pour exprimer une opinion qui paraissait particulièrement légitime, notamment eu égard au massacre dont il est question dans le cadre de cette, je dirais, dans le cadre de cette agression israélienne contre la population palestinienne. Ce qui démontre quand même qu'il y a une réticence du pouvoir politique. Mais derrière ça, vous avez également une population qui se mobilise, vous avez une société civile qui se mobilise. Et nous verrons la semaine prochaine, par exemple, pour la journée d'Al-Quds, comment les mobilisations vont avoir lieu, parce que c'est la semaine prochaine, vendredi prochain, si mon mémoire est bonne. En tout cas, nous sommes ici prêts pour y aller. Et évidemment, ces mobilisations-là viendront se rajouter aux manifestations que l'on fait de manière périodique depuis le début de cette agression, mais en plus de la manifestation concernant la Journée de la Terre, c'est-à-dire qu'il y a une véritable mobilisation et que l'on voudrait intensifier afin que le pouvoir politique se réveille, parce que ce pouvoir politique est endormi entre les déclarations tonitruantes d'un côté, mais les actes qui sont en totale opposition avec les déclarations. Nous sommes face à un pouvoir politique qui est totalement démissionnaire par rapport à une solution, mais en même temps une réponse à cette agression, parce que vous ne pouvez pas continuer de dire qu'il faut arrêter l'agression, alors que vous continuez de l'alimenter et de les financer. Les Américains viennent de le prouver en accordant une aide militaire de 3 milliards supplémentaires en avions et en munitions. Et alors, pendant cela, ils disent non, il faut que cette guerre s'arrête. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent et c'est ça que paye la population civile palestinienne actuellement.
Merci beaucoup André Chami et Elia Tem, à vous deux pour avoir apporté ces informations et ces analyses à notre émission. Merci à vous, amis téléspectateurs, auditeurs. Ravi de vous retrouver à la prochaine pour un nouveau débat. Au revoir.
Chers amis auditeurs, bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Le leader exprime ses condoléances pour la mort en martyr des commandants du corps des gardiens de la révolution islamique lors d'une attaque israélienne contre le consulat de la République islamique d'Iran à Damas, la capitale syrienne. Le leader de la révolution islamique déclare que l'Iran punira Israël et qu'il le fera regretter le crime commis en Israël. Au nom de Dieu, le commandant dévoué de l'islam, le général de division Mohammad Reza Zahedi, ainsi que son accompagnant, le général Mohammad Hadi al-Jihrahimi, sont tombés en martyr par des criminels sionistes usurpateurs et non. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur eux, ainsi que sur les autres martyrs de ce crime, et que sa malédiction soit sur les responsables du régime d'agression sioniste. Nos martyrs ont reçu de leur Dieu miséricordieux la récompense de leur long combat sur le chemin de Dieu et jouissent désormais des bénédictions divines en compagnie des saints de Dieu au paradis. Le régime pervers sioniste sera puni par nos hommes courageux. En faisant appel à Dieu, nous les ferons regretter pour les crimes qu'ils ont commis. La section consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas, la capitale syrienne, a été la cible d'une attaque de missiles lundi 1er avril. L'agence de presse officielle syrienne Sana a affirmé que les frappes avaient été menées par l'ennemi israélien et visaient un bâtiment du quartier de Meza à Damas. Le commandant de la force ROTS du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Mohammad Reza Zahedi, son adjoint le général de brigade Mohammad Hadi al-Jihrahimi et 5 autres officiers du CGRI ont été tués en martyr lors de cette attaque. Le leader de la révolution islamique a déclaré le 26 mars, lors d'une rencontre avec Ismail Haniya en visite à Téhéran, que le meurtre des Gazaouis et le génocide à Gaza touchent chaque humain consciencieux et que la République islamique d'Iran n'hésiterait pas à soutenir la cause palestinienne et le peuple opprimé de Gaza. L'honorable Ayatollah Ali Khamenei a salué la résistance inouïe des combattants palestiniens et du peuple de Gaza. La patience historique des Gazaouis face aux crimes et aux hostilités du régime sioniste qui bénéficie du plein soutien de l'Occident est un phénomène immense qui a vraiment fait honneur à l'islam et fait de la question de la Palestine la première question du monde contre le gré de l'ennemi, a-t-il affirmé. Il a qualifié d'importante la question de soutien de l'opinion publique internationale ainsi que du monde de l'islam, en particulier des pays arabes, à la population de Gaza. Les médias proches de la résistance palestinienne ont jusqu'à présent pris des mesures adéquates à l'encontre de l'ennemi sioniste, a-t-il souligné. L'opération Tempête d'Al-Aqsa a détruit le mythe d'un Israël invincible et après 6 mois de conflit, l'ennemi sioniste a subi de lourdes pertes humaines. Des milliers de soldats sionistes ont été tués et blessés durant la guerre de Gaza. La guerre à Gaza est une guerre mondiale et l'administration américaine est le principal complice des criminels sionistes, d'autant plus que c'est elle qui mène en effet la guerre dans la bande de Gaza, indiqué pour sa part le chef du Hamas, Ismail Haniya. De même, lors d'une réunion avec le secrétaire général du djihad islamique de la Palestine, Ziad al-Nakhala, le jeudi 28 mars à Téhéran, le leader de la révolution islamique a déclaré que Gaza était jusqu'à présent le principal vainqueur de la guerre, saluant la résistance de la population palestinienne contre l'invasion du régime sioniste. La résistance du peuple à Gaza et en Palestine, outre les échecs du régime sioniste au cours de la guerre de 6 mois, est un phénomène divin, a-t-il souligné. Le meurtre de femmes et d'enfants par le régime sioniste, malgré tout son équipement militaire et le soutien des puissances oppressives du monde, montre que le régime n'est pas capable d'affronter les forces de résistance ni de les vaincre, a renchéri l'Ayatollah Khamenei. L'Iran célèbre le 45e anniversaire de l'établissement de la République islamique. Le ministère iranien des Affaires étrangères a renouvelé dans un communiqué son allégeance à la protection des intérêts nationaux de l'Iran sur la scène internationale, alors que le pays célèbre le 45e anniversaire de l'établissement de la République islamique. Le ministère des Affaires étrangères a publié le dimanche 31 mars un communiqué en l'honneur de la journée de la République islamique qui marque la tenue d'un référendum historique en 1979 au cours duquel les Iraniens ont voté massivement en faveur de la destitution du régime Pahlavi soutenu par les États-Unis quelques semaines après son effondrement. La diplomatie iranienne a salué le référendum de deux jours des 30 et 31 mars 1979 comme une épopée unique dans l'histoire de l'Iran et a décrit la République islamique comme un modèle de démocratie fondée sur la religion. Le texte a également salué le courage et les dévouements du peuple iranien dans sa lutte de plusieurs années contre le tristement célèbre régime Pahlavi. Plus de 90,2% des Iraniens éligibles ont voté oui pour l'établissement d'une république islamique dans tout le pays lors du référendum historique tenu en 1979. Le vote, qui a eu lieu moins de deux mois après la victoire de la révolution islamique, est considéré comme un tournant dans l'histoire contemporaine de l'Iran. Le porte-parole de l'UNICEF, James Edler, a écrit dans un message sur le réseau social X que le cessez-le-feu n'a pas encore été établi à Gaza et que les enfants palestiniens sont toujours confrontés aux terribles conséquences de la guerre et de la faim. Et pendant ce temps, le monde regarde. Un cessez-le-feu doit être établi immédiatement à Gaza, écrit-il. L'UNICEF a constaté dans un rapport que les enfants de Gaza meurent lentement et sous les yeux du monde. La vie de milliers d'enfants et de nourrissons dans la bande de Gaza dépend d'une action de sauvetage immédiate. Il est très probable que de plus en plus d'enfants à Gaza tentent de survivre dans les quelques hôpitaux encore actifs. Pendant ce temps, les enfants du nord de Gaza sont complètement privés de tout service de santé et de soins médicaux, a-t-elle déploré. Des enquêtes menées par l'UNICEF et l'Organisation mondiale de l'alimentation dans le nord de Gaza, en janvier dernier, montrent qu'environ 16% des enfants de cette région souffrent de malnutrition sévère. Une guerre génocidaire a été déclenchée par le régime d'occupation israélien à la suite d'une opération sans précédent menée depuis la bande de Gaza par le Hamas le 7 octobre 2023 contre les territoires occupés de la Palestine, en représailles à des décennies d'exactions à l'encontre du peuple palestinien. Après plus de 6 mois d'offensive, le régime de Tel Aviv n'a toujours pas réussi à atteindre ses objectifs déclarés, à savoir décimer le Hamas et libérer tous les captifs israéliens. Près de 33 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués, et plus de 75 000 autres blessés depuis le début des attaques israéliennes. Comme à l'accoutumée depuis le début de la guerre israélienne contre la population civile dans la bande de Gaza, des manifestations de masse se sont déroulées le samedi 30 mars dans plusieurs pays européens, coïncidant cette semaine avec la Journée de la Terre. Les manifestations ont connu un élan sans précédent et une vaste portée à travers l'Europe, s'étendant à de nombreuses villes, dont Londres, Paris, Amsterdam, Copenhague, Oslo, etc. Dans le contexte du génocide en cours à Gaza, depuis près de 6 mois, cette journée du 30 mars 2024 prend une importance particulière. De même, le vendredi 29 mars, pour la 6e nuit consécutive, des milliers de Jordaniens ont manifesté près de l'ambassade israélienne à Amman pour exprimer leur soutien aux Palestiniens de Gaza. La capitale marocaine Rabat a été également la scène des manifestations des milliers de Marocains qui ont réclamé la fin du siège israélien de la bande de Gaza et de la guerre en cours dans cette enclave. Des manifestations semblables ont été également organisées au Yémen. La plus grande manifestation anti-Netanyahou depuis le 7 octobre 2023 a dégénéré en violence face à la police israélienne dimanche soir, 31 mars. La police israélienne a tenté de disperser les contestataires, dont le nombre était estimé à environ 100 000, assemblés devant le domicile du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Des milliers d'Israéliens se sont également rassemblés en masse dimanche soir devant le bâtiment de la Knesset à Rotz, réclamant le renvoi de Netanyahou et la tenue des élections anticipées. La police a fait usage de canons à eau pour dégager une route bloquée par des manifestants en colère, agitant des drapeaux israéliens et allumant des feux. Élection, Netanyahou doit partir et ramener les otages maintenant, criaient les protestataires. En marge de la manifestation, le chef de l'opposition Yair Lapid a critiqué le Premier ministre pour avoir dit que les élections paralyseraient l'entité sioniste. Il a reconnu que le régime sioniste est déjà paralysé et désintégré à cause du leadership de Netanyahou. La police a interpellé plusieurs manifestants. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.